Une petite méditation du psaume 1 ce soir. Psaume 1 que vous connaissez bien. Qui c'est qui le connaît par cœur, le psaume 1? Qui connaît? On peut essayer alors. Hein? Moi, je révis, moi, je vois, je regarde si vous ne vous trompez pas. Ouais. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Très bien, vous avez bien fait. moi, j'ai révisé un peu aujourd'hui, donc... voilà, on va pas le relire puisqu'on a tous récité, mais s'il fallait donner un chiffre à ce psaume, c'est une question bizarre, un chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lequel vous donnerez? Non, juste quel chiffre vous mettriez dans ce psaume? Est-ce qu'il n'y a pas un chiffre qui saute aux yeux là-dedans? Le 6? Peut-être, pourquoi 6? Il dit ? Il nous enseigne tout. Donc 6, c'est tout pour toi, c'est ça ? Non, j'ai dit, ça peut être 12, 15, 20 millions, comme tu veux. Hein? Non ? Qu'est-ce que le psaume présente ici ? Il présente quoi ? Oui, encore ? Il parle de qui ? Les justes et les... Ça fait... Qu'est-ce qu'il dit des justes et des méchants? Qu'il y a un qui va dans un lieu et un autre qui va dans un autre lieu. Ça fait toujours deux. Il présente les deux attitudes du juste, d'accord, qui médite la parole, etc. Et puis l'autre qui est méchant, bon, par opposition, hein, qui vit de manière avec désordonnée, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, pas pour la gloire de Dieu. Donc, on pourrait dire, hein, que ce psaume, moi j'ai dit ça comme ça, hein, c'est deux hommes, deux voies, deux chemins, présentent deux chemins, hein, la voie des pécheurs et la voie des justes, encore deux, hein, et deux destinées. Hein. Donc, on pourrait dire que c'est, c'était juste pour vous faire réfléchir un petit peu, hein. Mais quel verset ici parle de l'homme juste? Quels sont les versets qui parlent de l'homme juste? Est-ce que vous regardez? Vous avez le droit de regarder. Hein? Les versets qui parlent du juste. 1, 2, 3, voilà. Et puis, et oui, si c'est une manière différente, hein, mais aussi, et puis pour le méchant, on a le 4. Et le 5, d'accord, en gros. Et puis le 6, c'est comme quelque chose de final où il dit Dieu connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine, d'accord. Mais comment sont décrits les deux personnes, les justes et les injustes? En résumé, comment on pourrait dire qu'ils sont décrits dans ces versets? Oui, mais qu'est-ce que l'on dit d'eux, par exemple? Oui, il y a un qui est heureux. On ne dit pas que l'autre est malheureux, mais vous avez le droit de le penser. Oui, ils sont présentés par ce qu'ils font un peu. Hein. On voit ici, alors on dit plutôt ce que le juste ne fait pas, et puis ce qu'il fait. Et puis pour le méchant, bon, on parle de comment il est, en gros, hein, mais on sait qu'il fait les choses que le juste ne fait pas ici, c'est ce que le méchant fait par opposition. Alors, on a dit que le psaume présente le fait l'homme heureux. Hein, ça commence comme cela. Hein, c'est comme une les béatitudes de Jésus. Vous vous rappelez, hein, heureux. Hein, là, c'est on pourrait dire c'est une béatitude aussi. Hein, il parle de celui qui est béni. Alors, pourquoi est-ce qu'il est heureux cet homme? Si vous lisez ce psaume, parce que il médite la parole. D'accord. Est-ce que c'est suffisant? Enfin, je dis est-ce que c'est suffisant? Est-ce que s'il faisait que ça, il met en pratique, oui, il lit la parole, il la médite, il trouve son plaisir dans la parole, il ne s'associe pas, et tout ça fait qu'il est heureux. Donc si le psaume s'arrêtait là, hop, ce serait, on serait dans le cas de... d'Azaph, psaume 73, non? Quand il dit quoi? Il dit qu'il a passé sa vie à faire ce qui est juste, et puis quand il regarde le méchant, parce que vous dites que le méchant il est malheureux, mais Azaph ne l'a pas trouvé malheureux du tout, hein? D'accord, le psaume 73, il dit quoi? Il a de l'embonpoint, hein? Ça veut dire qu'il mange bien, il se nourrit bien, tout ce qu'il touche devient de l'or, hein? Etc. Pourquoi dit-on qu'il est malheureux? Et à quel moment Azaph a compris les choses? Il a dit quoi? Lorsque j'ai regardé dans le... Comment il dit ça? Dans le sanctuaire. Il a regardé donc vers la fin des choses. Et est-ce que ce psaume ne dit pas la même chose? Si vous regardez plus loin, il dit quand même, hein, il dit c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voix des justes, et la voix des pécheurs mène à la ruine. En fait, il est heureux par rapport à la destinée qui l'attend. Parce que pendant la vie sur la terre, il peut se passer des choses humainement on considère pas malheureuses. C'était un peu le cas d'Azaph, hein, ce qu'il disait. Il y avait des choses pas heureuses. On peut avoir des difficultés, des souffrances dans la vie. Et celui qui ne sert pas Dieu, il n'a pas de difficultés, il n'a pas de souffrances dans la vie. Tout lui réussit, hein, il ne manque de rien. D'accord? Mais c'est le sort final. Il y a un grand couturier qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui avait tellement d'argent qu'il a légué sa fortune à son chat. D'accord? Bon, alors c'est le chat le plus riche de la planète. On ne peut pas dire que cet homme ait été financièrement malheureux. D'accord? Donc il a été malheureux du point de vue de Dieu, c'est-à-dire dans le sens où il n'a pas connu, sauf s'il a accepté Christ au dernier moment, je ne sais pas, mais bon, de ce que l'on sait de sa vie en tout cas, n'a pas connu Christ, c'est quelque chose de malheureux. Mais c'est surtout à cause du sort final, hein, de l'éternité dans laquelle on rentre, hein, qu'il y a ce proie. Et quand il dit ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il dit, mais l'Éternel le connaît, parce qu'il aura une fin heureuse. Une fin heureuse. Et exactement comme dit Azaph dans le psaume 73. Alors, le psaume commence, on regarde rapidement, avec une déclaration, on appelle ça une exclamation. Hein. Si je le lis dans la traduction de la parole de vie, il dit, voici l'homme heureux. Hein. Voici l'homme heureux. Hein, d'autres commentateurs disent, ô bonheur de l'homme. C'est ça que ça veut dire, le heureux qui est là, c'est une exclamation. C'est pas voilà ce qu'il faut faire pour être heureux, mais dit voici l'homme heureux, tout simplement. Hein. Et est-ce que vous savez que le 20 mars, c'est peut-être presque le 21, c'est le printemps, c'est ça, non? 20 mars 2019, c'est la journée mondiale du bonheur. Ouais, alors ça a été décrété par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis plusieurs années déjà. Chaque année, vers le 20 mars par là, ça s'appelait avant la Journée internationale du bonheur. Maintenant, ça s'appelle la Journée mondiale du bonheur. Il y a même un prestigieux professeur dans la prestigieuse université d'Harvard qui est un prof de bonheur. Ça s'appelle le prof de bonheur. Donc, les gens prennent des cours pour se connaître, savoir comment faire pour être heureux. Alors, il commence, j'ai écouté quelque chose, et il commence par dire, eh bien, il faut dormir. Bon, oui, alors. Et puis, après, quand on se lève, ben, il faut penser à de bonnes choses. Essayez de penser à des choses qui sont très, 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 très belles, très, très bonnes. Voilà. Et puis, quand vous arrivez au travail, Essayez de vous concentrer 5 minutes. Il faut les 5, on appelle ça les 5 premières minutes. Si vous n'y arrivez pas, prenez encore 5 minutes. Si vous n'y arrivez pas, encore 5 minutes. Et puis tout un tas de choses comme ça. Il y a un journaliste qui a dit, avec ça, on est prof à Harvard. Et il dit, ils ne sont pas très exigeants sur le... Ça fait un peu rigoler, mais c'est sérieux, hein. C'est vraiment des choses qui se passent dans notre monde, hein, où on vend un petit peu. Et si vous allez sur les étalages, il y a beaucoup de livres, hein. Cette façon d'être heureux ou comment être heureux, cultiver l'optimisme. Mais tout cela, quand on regarde bien, on sait bien que c'est fragile et qu'il faut faire une chose. Si elle ne marche pas, une seconde chose. Si elle ne marche pas, une seconde chose. Et on n'est pas certain d'arriver au bout du bout au bonheur. Mais ici, le psaume dit. Voici le bonheur. Il ne dit pas, il faut faire ça, il dit, voici. Ça, c'est le bonheur. Et qui c'est qui le décrète? C'est Dieu. Qui c'est qui le dit? C'est Dieu lui-même. Donc, et qu'est-ce que l'homme heureux? Alors, il va décrire ici, le psalmiste va décrire l'homme heureux de manière, non, premièrement, négative. Est-ce que vous voyez ça? Il va dire ce qu'il ne fait pas. Alors, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, celui que la Bible déclare comme un heureux, c'est un homme déjà qui a une certaine conduite, c'est sûr, hein, pas que, mais qui ne fait pas un certain nombre de choses. Alors, ça veut dire quoi qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants? Qu'est-ce que le méchant ici? Est-ce que le méchant, c'est celui qui a un revolver à la main? Et puis qui tire sur tout le monde, non, c'est, oui, c'est aussi méchant cela, mais ce n'est pas cela simplement. Par exemple, quand Jésus parle, on avait vu ça dans le sermon sur la montagne, il dit « si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants », il parle simplement des parents, et il les appelle des méchants. C'est-à-dire avec un cœur qui est dur, orgueilleux, égoïste. C'est cela. Donc, c'est-à-dire, quand il parle de ceux qui marchent selon la voie des, selon le conseil des méchants, il parle de ceux qui vivent selon la pensée égoïste de ce monde. Hein. L'homme marche selon les désirs de son propre cœur, selon ses pensées. Hein. Ses pensées sont, la Bible dit, hein, inimitié contre Dieu. Donc, il dit que celui qui est heureux, il ne vit pas en embrassant la pensée du monde, hein, le système de valeurs du monde. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, hein, et son chemin n'est pas celui de l'homme qui pêche, et puis il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il n'a pas des fréquentations, des manières de vivre qui sont des manières de vivre mondaines. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on aurait pu s'attendre à quelque chose, mais l'homme qui est heureux, il ne fait pas ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il marche selon la voie de ceux qui sont justes, je ne sais pas. Hein. Il s'arrête sur la voie des hommes droits, et puis il a comme compagnie, eh bien, les gens qui sont corrects et qui marchent selon le Seigneur. Ça aurait été correct de dire ça. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que il va le décrire après l'avoir décrit négativement. Il le décrit positivement, et il dit que l'homme heureux, c'est celui qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc l'homme heureux est décrit vraiment de manière positive maintenant. Et qu'est-ce qui le décrit précisément ici? Comment vous auriez résumé juste ce qui le décrit ici, dans ce verset 2? Qu'est-ce qu'il décrit là? Au début, ce qu'il ne fait pas, okay, négativement. Mais positivement, qu'est-ce qu'il le décrit?
L'obéissance.
Oui, l'obéissance, on pourrait dire cela. Plus simplement, hein, regardons juste le texte.
Il médite.
Oui, il médite la parole.
L'intérêt pour la parole.
L'intérêt pour la parole, voilà. On pourrait résumer, hein, ça comme ça, l'intérêt pour la parole. En fait, son attitude, moi j'ai noté, c'est la même chose, hein, j'ai son attitude par rapport à la parole de Dieu. Quelle est son attitude, son intérêt, on pourrait dire aussi, pour la parole de Dieu? Il trouve d'abord son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cela? Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on ne peut pas trouver du plaisir dans une loi. Une loi, c'est quelque chose qui dit tu fais ceci, tu fais pas cela, et personne ne trouve du plaisir dans des lois. Mais bon, on sait que la loi de l'Éternel, c'est pas des interdits, hein. C'est toute la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Il dit que celui qui est l'homme heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il y a beaucoup de passages dans la Bible qui disent cela. Psaume 112, par exemple, dit « Louez l'Éternel et heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Psaume 112, et je n'ai pas noté le verset malheureusement, verset 1, merci. Alors, il y a une concordance biblique ici, là. Psaume 112, verset 1, donc « Louez l'Éternel et heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Et puis le psaume 119 dit beaucoup cela. Je ne sais pas si vous avez lu tout le psaume 119, j'espère que vous avez déjà lu tout le psaume 119, hein, en entier. Il y a beaucoup de références à la parole et beaucoup de références au fait d'aimer la parole de Dieu. Donc je vous en donne trois. Il dit « Je fais mes délices », psaume 119, verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point tes paroles. » Et psaume 19, verset 24 dit « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Et puis psaume 119, verset 47 dit « Je fais mes délices de tes commandements et je les aime. » Donc on pourrait dire ici, qu'est-ce que trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, si on regarde ces versets-là? Il dit, eh bien, c'est de ne pas l'oublier. Il dit « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Hein? » Donc ne pas l'oublier. Ça veut dire quoi, ne pas l'oublier? Ça veut dire quand je suis dans des situations particulières, le premier réflexe que je dois avoir, c'est quoi? C'est que dit la parole. Ça, c'était la méthode de Jésus, rappelez-vous. Hein? Il y a un docteur de la loi qui vient voir Jésus, puis il dit « Maître, comment je fais pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus dit quoi? Il dit « Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu ?» Une référence toujours systématique à la loi de Dieu, n'est-ce pas? Quand d'autres viennent le voir, puis ils disent « Oui, Moïse nous a prescrit qu'on peut répudier sa femme. » Et puis, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lisez-vous, hein? N'avez-vous pas lu que au commencement, Dieu, il ramène encore aux Écritures, toujours. Et donc, ça veut dire que dans tous les aspects de notre vie, prendre plaisir à la parole de Dieu, c'est ne pas l'oublier, hein, toujours pouvoir y faire référence. Et tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Voilà, donc la parole de Dieu, hein, quand on prend plaisir en elle, elle devient nos conseillers. Quand, par exemple, il y a des gens qui s'entendent bien, ça arrive hein, parfois, et ils ont besoin d'un conseil, ils vont toujours voir leurs potes ou leurs amis, n'est-ce pas? Même si c'est pas la personne qu'ils doivent aller voir. Hein. Peut-être c'est pas la personne qui va leur donner le bon conseil, simplement parce qu'elles aiment ces personnes-là, elles vont d'abord chercher le conseil de ces personnes. Et parfois, l'amour fait que l'on cherche le conseil, ou l'amitié fait que l'on cherche le conseil de quelqu'un, et pas la sagesse. Hein. On devrait être sage pour chercher le bon conseil au bon endroit. Mais parfois, par exemple, hein, on pense que parce que c'est un jeune comme moi, c'est mieux d'avoir son conseil, parce que son âge est plus proche du mien, il va mieux me comprendre. Mais quand on lit la parole de Dieu, hein, il dit aux femmes âgées d'apprendre aux jeunes femmes comment aimer leur mari. Dieu, il n'y a pas question d'âge. Hein. Les personnes âgées peuvent enseigner des classes d'enfants. C'est pas parce que, ou s'occuper de jeunes adultes, c'est pas parce qu'il y a une différence d'âge qu'on ne peut pas s'occuper, ok? Donc, on peut avoir des attitudes comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on va vers ceux que l'on aime pour chercher leur conseil. Mais je crois que c'est la même chose ici. Si on aime la parole de Dieu, eh bien, on va vers elle pour trouver le conseil qu'il nous faut. Et puis après, il dit, je fais tes délices de tes commandements et je les aime. Prendre plaisir, c'est vraiment aimer la loi de Dieu. Et le psaume 119 dit beaucoup ça, hein, beaucoup de passages où il est question d'aimer la parole de Dieu, hein, de la chérir, de la serrer. Comme Jérémie qui a dit, j'ai fait de tes paroles la joie et l'allégresse de mon cœur. Je les ai même dévorées, il dit. Hein, et ils ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Donc il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et puis il la médite jour et nuit. Et c'est quoi méditer? Oui? C'est réfléchir, c'est penser. On pense souvent à, on pense à la vache qui rumine, n'est-ce pas, et qui a la nourriture dans la panse, tiens justement, et puis qui après avoir brouté, eh bien être dans un coin et puis commence à ruminer l'herbe. Et c'est pareil que nous, c'est la même chose que avec la parole. Hein, on doit la, bien sûr, l'emmagasiner, mais en même temps, on doit y réfléchir, comme on a dit. On doit la faire revenir à notre esprit, voir comment on peut l'appliquer à notre vie, réfléchir comment on peut l'appliquer dans notre vie. C'est un peu tout ça, et plus que ça, méditer. C'est pas juste lire et puis dire j'ai lu. Bon. Méditer, c'est vraiment réfléchir sur ce qui est écrit là, et puis me demander comment cette chose peut impacter ma vie. Alors, si vous voulez, négativement, une méditation négative a été la méditation des frères de Joseph, par exemple. Vous vous rappelez, Joseph, quand il les retrouve, il dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Et quand on lit l'histoire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi à comment ils vont faire avec ce gars-là qui est faiseur de songes. Ils ont discuté et puis ils ont pensé un plan et ils ont mis le plan à exécution. Et spirituellement, positivement, c'est ainsi que nous devions faire avec la parole de Dieu aussi. La méditer, voir comment, quel plan on va mettre en œuvre pour que cette parole puisse s'appliquer dans ma vie. Si j'ai une situation, un problème avec quelque chose, comment je peux faire pour régler ça avec la parole de Dieu? Comment je peux laisser la parole de Dieu agir en moi? Ça va jusque-là. Alors, pourquoi, moi j'ai posé une question, pourquoi décrire le juste par son rapport à la parole de Dieu? L'auteur aurait pu dire, eh bien, le juste, c'est quelqu'un qui a une discipline, il est assidu à l'église, par exemple, il a son culte de famille. Là. Pourquoi est-ce qu'on le décrit pas uniquement par ses actions, mais ici par son attitude par rapport à la parole de Dieu? Eh bien, si vous lisez Josué 1, verset 8, par exemple, il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est la même chose, donc on voit ici, médite-le jour et nuit. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire que tu vas méditer la parole pour pouvoir faire quoi? Agir. La méditation sérieuse de la parole de Dieu se retrouve donc dans les gestes, dans les actions. Et donc voilà pourquoi je pense on décrit le juste par son rapport à la parole de Dieu. Parce que s'il médite, il aime cette parole et qu'il la laisse agir dans sa vie, cela va se transcrire dans ses actes. Mais si on prend seulement les actes, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un lien étroit avec la parole. Il y a des gens qui peuvent se conduire très très bien d'une certaine manière, peuvent être assidus, peuvent chanter très bien, peuvent prêcher très bien, peuvent avoir de bonnes paroles dans les prières, mais ça ne préjuge pas d'un intérêt forcément pour la parole. C'est exactement ce que Dieu dit dans Ésaïe quand il dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » D'accord. Donc vous voyez, et c'est pour cela que la Bible décrit vraiment l'homme heureux, le juste, par son rapport à la parole de Dieu. Quel rapport il entretient avec la parole de Dieu. Et rappelez-vous, le psalmiste, encore psalm 119, il dit quoi? « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il dit pas, je ne pêche pas pour serrer ta parole. Non, je serre la parole. Et quand cette parole-là, elle est tellement vivante en moi, eh bien, je le fais pour qu'elle soit dans mon esprit, pour que quand je vois quelque chose, ta parole qui vienne, etc., et pour ne pas pécher contre toi. Donc la parole est un, je vais pas dire pas un garde-fou, mais c'est vraiment toute la motivation qu'on peut avoir, elle vient de la parole de Dieu. Regardez Deutéronome chapitre 18, Deutéronome chapitre 18, verset, chapitre 17, pardon, verset 18, Deutéronome 17, verset 18. « Deutéronome chapitre 17. Ici. Et à partir du verset 18, Moïse parle d'un roi que le peuple aura. Il dit, quand il s'assiera sur son trône, sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il écrira. Hein. Il écrira comment ? Il dit, une copie hein, pour lui-même. Hein. Il dit, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. C'est extraordinaire de voir ça, hein, comment l'importance que Dieu met ici. Il doit faire une copie de la parole pour l'avoir tous les jours avec lui. Maintenant, on a des Bibles dans toutes les langues, dans toutes les traductions. Dans le téléphone, il y a 25 traductions, etc. On n'écrit rien, d'accord. Mais là, certainement, le fait d'écrire aussi, ça peut permettre à la parole de pénétrer la pensée. Et il devait le faire, il le gardait avec lui tous les jours pour qu'il puisse avoir une conduite comme il faut. Voilà donc pourquoi ici, je crois, il est question de l'homme heureux dans le psaume 1. C'est celui qui a un rapport particulier à la parole de Dieu. Ici, je vois que le temps est avancé. Hein. Je vais peut-être arrêter là. Mais on verra un petit peu la suite la prochaine fois. Mais la question qu'on pourrait se poser quand même, c'est quel est notre intérêt pour la lecture de la parole de Dieu ? Est-ce qu'il y a des livres de la Bible que nous avons jamais encore lus ? Ça peut arriver, hein ? Est-ce que nous lisons régulièrement la parole de Dieu ? Déjà, il faut la lire, hein, on ne peut pas l'aimer sans la lire. Okay. Et puis, est-ce que nous la méditons ? Combien nous la méditons ? Ici, quand il dit jour et nuit, ça ne veut pas dire qu'on ne dort pas, bien sûr, pour écouter la parole de Dieu. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être continuel dans notre vie. Hein. On doit s'exposer continuellement à la parole de Dieu. Quand j'ai un peu de temps, je dis, voilà, c'est pas... Parfois on dit, oh, je ne sais pas ce que je veux faire ce temps-là, il faut que je me détende un peu. On pourrait mettre à profit pour lire la parole de Dieu. C'est vraiment une chose qui est très, très importante. Elle est d'autant plus importante qu'elle est difficile à faire, souvent. Et il y a beaucoup de choses qui nous happent dès le matin, dès la journée, beaucoup d'activités. Mais il dit que celui qui aime, qui est heureux, c'est celui, et qui connaît le Seigneur, c'est celui qui a un rapport étroit avec la parole de Dieu, un intérêt grand dans la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Autrement dit, il est en train de dire que le disciple véritable, c'est celui qui demeure dans sa parole. C'est celui qui demeure dans sa parole. Écoutez ce qu'il disait aux pharisiens, je vais vous lire dans Jean chapitre 8. Il dit, Jean chapitre 8, il dit, celui qui est de Dieu, celui qui est, hein, du verbe être, est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Et il dit aux pharisiens, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Autrement dit, celui qui est véritablement un enfant de Dieu, c'est pas seulement dans ce qu'il fait, son assiduité, son sérieux dans quelque chose que cela, qu'il doit trouver de l'assurance. Il y a des fois des gens qui viennent ici, ils sont là depuis 2 jours, ils sont même pas au Seigneur, ils sont en train de servir partout, il faut les arrêter, me dire attends, c'est pas ça qui est le plus important, et ils servent. Donc vous voyez, c'est pas ça qui doit nous donner de l'assurance. Il dit, si on n'écoute pas la parole de Dieu, il dit aux pharisiens, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu, lui, il écoute la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, le rapport que l'on entretient avec la parole de Dieu. C'est une jauge de mesure de notre relation véritable avec le Seigneur. Et donc qu'on puisse prier Dieu de nous donner un cœur qui aime sa parole et de prier, de demander pardon, de nous repentir s'il le faut, mais de chercher vraiment à aimer notre Seigneur à travers cette parole, celui qui m'aime garde mes commandements, d'accord ? Et si on ne les garde pas, bien, on peut se poser des questions sur la véritable nature de l'amour que l'on prétend entretenir avec Dieu. Donc le Seigneur nous aide à considérer ces choses et à être comme cet homme qui est décrit ici, à aimer sa parole véritablement. Nous tourner vers lui, si vous n'êtes pas encore tourné vers lui, la première des choses, c'est de vous tourner vers lui, de vous repentir, de demander à Jésus de vous racheter, de vous sauver, qu'il arrache votre cœur des ténèbres et qu'il transporte dans le royaume de son Fils. Mais celui qui est au Seigneur, le signe distinctif, c'est qu'il a un amour particulier pour la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci encore pour ce psaume qui nous encourage. Et ce n'est pas nous-mêmes qui, de notre propre cœur, aimons les choses qui viennent de toi. Si nous sommes attirés vers toi et vers ta parole, c'est parce que toi, tu nous y attires. Parce que toi, tu as mis en nous ton esprit par lequel nous pouvons t'appeler Abba Père. Nous te remercions encore pour ces choses que nous avons vu ce soir, je te prie que tu nous aides à nous attacher davantage à ta parole. Tu sais combien d'activités, combien de choses nous accaparent. Et Seigneur, et combien naturellement notre cœur peut avoir tendance à délaisser ta parole. Mais nous te demandons de nous pardonner, Seigneur, et d'incliner nos cœurs, comme le psalmiste lui-même le dit, d'incliner nos cœurs vers tes statuts et non vers les gains, et non vers autre chose, Seigneur. Nous puissions faire de ta parole les délices de notre cœur. Te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.